On y va. Donc,
oui.
Comme c'est l'été, qu'il fait chaud, etc., ça tombe parfaitement. C'est un calendrier bien pensé, n'est-ce pas? Il fallait la chaleur pour abandonner la rigueur et la tension du stoïcisme et en venir à la détente de l'épicurisme, qui est une attitude mentale incontestablement de détente. Mais je voudrais quand même tout de suite évacuer un malentendu moderne, malgré tout, par rapport à l'épicurisme. Le malentendu moderne qui consiste à confondre épicurisme et hédonisme. L'hédonisme, c'est une philosophie de la vie, si on veut bien, qui consiste à privilégier le plaisir, les plaisirs, et à privilégier les plaisirs en recherchant le maximum d'intensité des plaisirs. Donc l'hédonisme, d'une certaine manière, est dans la logique du sans limite. En gros, on peut considérer que certain héritage, et c'est pour ça qu'il y a une confusion dans le sens de l'épicurisme, un certain héritage, je dis bien un certain héritage de mai 68, est de l'ordre de l'hédonisme, au sens où des slogans comme « jouir sans entrave », qui a été un slogan fort en 68, ou alors « il est interdit d'interdire », sont précisément des slogans hédonistes, si on veut bien, mais pas du tout épicuriens. De même, dans les années 70, il y avait un mouvement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement, qui était à la fois assez proche et aussi très éloigné de la gauche prolétarienne où j'étais, qui s'appelait VLR, Vive la Révolution, VLR. Il y avait un journal qui s'appelait « Tout ». Et le slogan de « Tout », c'est « Nous voulons tout, tout de suite ». Et c'est un mouvement, une mouvance qui a eu une influence importante dans le giron de laquelle s'est développé, disons, les mouvements, par exemple, de ce qu'on a pu appeler de libération sexuelle. Et par exemple, les mouvements de le phare, le front homosexuel d'action révolutionnaire, FHAR, était lié à cette mouvance-là. Largement le MLF aussi, enfin certaines chapelles du MLF, excusez-moi, c'est un peu péjoratif, mais ça a été un peu ça quand même, le MLF, ont été dans ce giron de tout, enfin de VLR, quoi. Voilà, bon. Donc, on peut dire que cette philosophie, VLR, ce n'était pas que ça, cette philosophie basique du slogan de VLR, « Nous voulons tout, tout de suite », s'inscrit plutôt dans la lignée d'une philosophie épicurienne de l'existence. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'héritage... Hédoniste, pardon.
Dominique, quel lien y aurait-il entre l'hédonisme et Dionysos, c'est-à-dire... comment parle Nietzsche ou comment parlent les spécialistes de l'Antiquité, c'est assez grec tout ça.
Alors, la différence, c'est que tout le culte de Dionysos est un culte à un dieu qui fait l'objet de fêtes, de grandes fêtes ritualisées. Il y avait plusieurs fêtes, il y avait les fêtes de Dionysos et les petites fêtes de Dionysos, d'ailleurs à deux moments différents de l'année, qui étaient en fait des grands rituels sociaux qui était organisé autour d'une catharsis généralisée. Catharsis, c'est un moment collectif extrêmement important dans la Grèce ancienne. La catharsis veut dire la purification ou la libération. On se libère. Il y aurait des liens lointains, alors très lointains, mais quand même, il y aurait des liens entre ces fêtes et, par exemple, les grandes fêtes de carnaval au Moyen-Âge. Où, vous savez, tous les rôles étaient inversés, les hommes se mettaient en femmes, les serfs se mettaient en seigneurs, on inversait tous les rôles, donc c'était un mouvement aussi de libération. Donc tout ce qui était les fêtes et les rites autour de Dionysos obéissaient à ça. Donc les rituels autour de Dionysos, il y avait des cérémonies avec les satyres, les hommes chevaux, vous savez. Voilà, il y avait une espèce de libération sexuelle, de catharsis au fond, voilà. Incontestablement, de hors limite. Donc en ce sens, il y a un lien. Sauf que la grande différence, c'est que quand même, ça, on est dans les rituels religieux, au fond, d'un culte à un dieu. Ça reste un dieu, Dionysos. comme il y avait les fêtes d'Apollo, ce qui étaient les théophanies, par exemple, qui sont les fêtes Apollo. Alors, donc le lien entre les Dionysies, comme on a pu les appeler aussi, et les Donismes, il est là, sauf que la différence, c'est que là, on est sur un registre religieux, et un culte, donc un culte, un rituel qui est quand même, qui obéit à des règles, qui est réglementé, où malgré tout, ce temps de catharsis est cadré. Alors que la philosophie, l'hédonisme comme philosophie, récuse, c'est ce que je disais de cet héritage-là de 68, récuse la limite. On est dans l'idée du hors-limite quand même. C'est-à-dire que le plaisir en soi se suffit à justifier l'existence et il est sans limite. Et l'hédonisme, c'est des courants de pensée philosophique qui, dans la Grèce antique, remettent quand même largement en question, et aussi à Rome, le rapport aux dieux et l'importance des dieux. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, le malentendu moderne, le malentendu contemporain, c'est de confondre épicurisme et hédonisme. La meilleure preuve, c'est que dans le langage courant, quand on dit de quelqu'un qu'il est épicurien, c'est en gros synonyme qu'il est hédoniste. C'est en gros, il est uniquement dans la jouissance de la vie, point, quoi. Il n'y a pas d'autre justice. Alors, où c'est compliqué, c'est que l'épicurisme est effectivement une philosophie du plaisir. Donc on pourrait dire que c'est la même chose. Sauf qu'on va le développer de cette séance, on n'aura pas fini aujourd'hui, on prendra en septembre. C'est un plaisir, un rapport au plaisir qui est compatible, qui nécessite même une ascèse. Askésis en grec, ascèse. C'est une discipline. C'est un plaisir qui n'est pas sans limite, précisément. Et ça, c'est la grosse différence. C'est en ce sens-là que, d'un côté, on peut dire que le stoïcisme et l'épicurisme sont deux philosophies antinomiques, pour une large part, deux philosophies morales antinomiques. Et dans l'épicurisme, en même temps, il y a une philosophie morale. C'est-à-dire une discipline orientant le mode de vie. Donc, en ce sens, il y a aussi des ponts, des passerelles, des cousinages entre épicurisme et stoïcisme, en réalité. Vous voyez, il faut le penser à la fois. Donc, la meilleure façon de penser, c'est Pierre Hadot qui dit ça, d'ailleurs, dans ses exercices spirituels. Donc, Pierre Hadot, je vous rappelle, ce grand philosophe et érudit de la Grèce antique, qui était professeur au Collège de France, qui est mort, là, il y a quelques années, et qui a fait des travaux fantastiques, qui ont beaucoup inspiré, d'ailleurs, Michel Foucault, parce que, bien que Hadot ait vécu plus longuement que Foucault, ils ont été des contemporains. Et Foucault, dans toute son histoire de la sexualité, mais qui est beaucoup plus large que le problème de la sexualité entendue au sens des philosophies antiques, Michel Foucault s'est beaucoup inspiré, même s'il s'en est éloigné des recherches de Pierre Hadot. La femme de Pierre Hadot vit toujours, d'ailleurs, qui s'appelle Ilse Trott, parce qu'elle était d'origine allemande, Ilse Trott Hadot. Voilà. Et donc, Pierre Hadot dit qu'il faut penser ces deux philosophies, épicurisme et stoïcisme, comme deux pôles d'une mise en tension. Et deux mouvements possibles, et je crois que c'est la voie. Je dis un peu ma conclusion en introduction, mais ça donne une perspective, quoi. C'est deux pôles qu'il faut mettre en tension, et peut-être les deux pôles qui peuvent orienter sa propre vie pour aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'être uniquement stoïcien, uniquement épicurien, il faut être... C'est peut-être deux mouvements de la vie, un peu comme le mouvement des battements du cœur, arsis, thésis, diastole, systole, tension, relâchement. Quoi. C'est-à-dire que la limite du stoïcisme, c'est que c'est une philosophie un peu comme, d'ailleurs, au fond, même si c'en est très éloigné, l'existentialisme contemporain, l'existentialisme de Sartre et d'autres. C'est une philosophie qui est une exigence de sens, d'orientation de la vie permanente, qui implique une tension permanente, une ascèse où on est tendu en permanence vers l'objectif d'atteindre la sagesse et le bonheur qui est promis par le fait d'être sage. Alors que l'épicurisme, c'est un mouvement d'une certaine manière, de décontraction, de détente, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règles et de limites. Mais c'est le mouvement quand même de relâchement. Et c'est une réponse qui va plaire à deux moments de l'antiquité grecque et romaine, D'où le succès de l'épicurisme à ces moments. Je vais préciser après, mais tu voulais dire juste une chose.
Je veux dire, sur le plan moral et de la gestion du désir et du plaisir, c'est vrai qu'ils se rejoignent, mais je pense que sur le plan philosophique, au-delà de la morale, il y a deux conceptions du monde très différentes, puisque le stoïcisme a mené à la contemplation d'une unité de l'univers complètement spirituelle, alors que, je dis peut-être des bêtises, mais les épicuriens, c'est les premiers matérialistes. Et alors, ils travaillent sur le hasard, et c'est pas la même conception philosophique.
Oui, je suis d'accord. C'est des questions très compliquées, et pas les développer à fond, parce que ça supposerait d'aborder ce que je n'ai fait qu'effleurer, la physique, au sens quasiment d'une science, c'est-à-dire la conception du cosmos, de la nature, de l'univers, qu'ont le stoïcisme d'un côté et l'épicurisme de l'autre. Quoi. Ça supposerait d'aborder ça à fond. En fait, quand même, je dirais juste un point très simple. Le stoïcisme se rapproche largement, il y a un héritage de Socrate et de Platon sur la métaphysique. L'épicurisme s'en éloigne largement et notamment se raccrocherait plus à la physique de Démocrite. Effectivement, c'est une lignée matérialiste. Sauf que il y a une espèce de conception vulgarité, de doxa, qui consiste à schématiser les choses selon un schéma d'opposition binaire qui dirait d'un côté le platonisme, le stoïcisme, c'est un idéalisme. Donc en gros, on s'envole dans le ciel des idées, on plane là-haut. Alors que Démocrite, l'épicurisme, c'est un matérialisme, l'immanence. Donc d'un côté, c'est la transcendance, les idées sont transcendantes, elles gouvernent le monde, l'homme. Alors que le matérialisme de Démocrite, comme celui de l'épicurisme, c'est un matérialiste de la matière, du corps, des sensations. On est ancré au sol, d'une certaine manière. Cette opposition, elle a tenu longtemps, mais elle est fausse. Elle est pratique parce que ça crée des catégories simples, ça met en ordre. On a toujours la tentation de mettre de l'ordre très simple avec des catégories comme les petites boîtes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et notamment, par exemple, il y a des philosophes, y compris, je pense à Guy Lardreau, dont je vais aborder deux, trois trucs, à travers son petit livre, par exemple, mais il n'y a pas que ça, « Vive le matérialisme ». Guy Lardreau soutient que, par exemple, la philosophie de Platon, c'est une philosophie matérialiste. C'est une philosophie qui part de l'immanence de la matière. Ceci pour dire que les choses sont plus compliquées que ces oppositions simples qu'on a tendance à faire. Alors, vous donnez un aperçu, pourquoi on peut dire qu'il y a une philosophie de la matière chez Platon et qu'on peut tirer Platon comme un matérialiste et non pas comme un idéalisme spiritualiste. J'ajouterai juste ça à ce sujet. J'ajouterai le fait qu'au Moyen-Âge, où on avait bien compris l'héritage des philosophes grecs, Platon puis Aristote, grâce d'ailleurs aux traductions des Arabes au départ, hein, le platonisme, on ne l'appelait pas du tout idéalisme. L'appellation idéalisme est arrivée bien après. Le platonisme, on l'appelait réalisme. Le platonisme est un réalisme. Et dans la fameuse querelle au XIIIe siècle, vous savez, vous avez au moins peut-être vu le film ou lu le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, qui met en scène le débat au XIIIe siècle avec Guillaume d'Ockham, ce philosophe anglais, Guillaume d'Ockham, qui était nominaliste. Le nominalisme, par exemple, Michel Foucault est un héritier du nominalisme. Pourquoi on a appelé cette philosophie nominaliste? C'est anti-platoniste. C'est une philosophie qui considère que les noms sont que des noms. Les idées, ça n'existe pas en tant que tel, c'est des mots qui n'ont pas de rapport avec les choses, c'est des conventions. Par exemple, on dit ça, c'est un arbre, mais c'est une convention. Pourquoi? Parce que on rassemble sous le terme arbre des étangs, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire des choses qui existent, qui n'ont rien à voir entre elles. Entre le platane que je vois là et puis, je ne sais pas, le petit chêne vert dans la garrigue, on dit que c'est des arbres, mais ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'il y a une singularité de chaque existant, de chaque étang, qu'on va nommer par le même mot arbre, mais en même temps, la réalité n'a aucun, ontologique de tout ça, n'a aucun rapport. Donc le nominalis part du principe qu'il n'y a que des mots qui sont à distance des choses, d'où le fameux livre, le titre du fameux livre de Foucault, qui est vraiment un livre nominaliste de point de vue-là, les mots et les choses. Alors le structuralisme s'apparente à cela, tout à fait. Et c'est en ce sens-là que Foucault se rapproche, sans avoir été au cœur, il arrivait juste après d'ailleurs, se rapproche du structuralisme de Lacan, de Lévi-Strauss, etc. Je vous dis deux, trois noms. Ou de Benveniste, Jacobson, ouais, pour les linguistes. Ne perdons pas le fil en nous embarquant trop dans tous les ruisseaux qui déroulent de cela. Donc le nominalisme, c'est ça. Et de ce point de vue-là, le nominalisme s'opposait complètement au platonisme et aux partisans d'Aristote, mais qui étaient dans le prolongement de Platon et de la philosophie de Platon. Les néo-platoniciens, si vous voulez, s'inspirent de Platon d'abord, mais aussi d'Aristote. Hein. Donc Platon-Aristote, vous pouvez le mettre dans la même logique. Et ils nommaient sans contestation les platoniciens, les nominalistes nommaient les platoniciens, du nom qu'avaient les platoniciens, ils ne disaient pas c'est des idéalistes, ils disaient c'est des réalistes. Alors pourquoi réalistes ? C'est l'idée qu'il y a un lien complet entre l'idée exprimée par des mots et les choses, les étangs, c'est-à-dire tout ce qui peuple le monde, quoi. Un homme qui existe, c'est un étang, hein, en philosophie. Et le participe présent du verbe être, c'est-à-dire le fait d'être en train d'être. On pourrait dire existant, mais après, en philosophie, l'existence n'est plus la même chose. Mais une pierre, c'est aussi un étang, toutes les choses. Hein. Donc, il y a un rapport intime dans le platonisme entre les idées, les mots et les choses. Donc, d'où le fait que ça soit du réalisme. Je vous rappelle que le mot réalisme vient du latin res, qui veut dire chose tout simplement. Et république, c'est res publica, entre parenthèses, je vous rappelle ça, qui veut dire la chose publique. La chose publique. Voilà. Donc res, réalisme, c'est la chose. Et le réel, c'est pas le réel lacanien. Le mot réel qui renvoie à la réalité, c'est la réalité, c'est la concrétude du monde. C'est les choses telles qu'on va les percevoir par les sens, par l'expérience sensible, par le toucher, par la vue, par l'odorat, voilà. Dans le platonisme, il y a un lien direct avec l'expérience sensible de notre rapport au monde, ce rapport immédiat sensible aux choses et les mots qu'on met sur les choses, les idées, les images qu'on va se former des choses. D'où le fait que c'est une philosophie, une conception que l'on peut qualifier de réalisme et pas d'idéalisme. Alors ça renvoie aussi à une chose qui est que dans la conception de Platon et notamment aussi telle qu'elle a été développée par la suite par les néo-platoniciens, le monde se conçoit comme une procession. Comment est né le monde et comment le monde se développe ? Il y a plein d'êtres. C'est une procession qu'a constitué le monde. Une procession, pro-odos en grec, ça veut dire procession. Odos, c'est la route, un chemin, et pro qui va de l'avant. Donc procession, on traduit pro-odos par procession. C'est une vision en cascade. C'est-à-dire, au départ, il y a un premier principe, et il y a ensuite des principes, et c'est en cascade, on dégringole les degrés d'être qui sont des degrés de génération successifs. C'est-à-dire que le premier principe, du premier principe génère, engendre deux principes, les dyades, puis les triades. Ça se multiplie jusqu'au sol, qui est la multiplicité totale des étangs, et jusqu'à la matière, aux choses matérielles, qui est l'infinie pluralité des choses, mais qui émane, qui est le dernier degré de la procession, c'est-à-dire des engendrements successifs. Vous arrivez à peu près à imaginer ça, alors c'est un peu compliqué, mais c'est toute la vision de la philosophie grecque, là. En tout cas, héritée de Platon. Ce qui fait qu'on peut dire que le degré le plus bas, qui sont les choses, la matière, les choses matérielles, dont on a multiples, infiniment multiples, on peut dire qu'il y a une trace. Elle porte en elle une trace du premier principe.
Oui, mais
de l'un.
C'est le degré le plus bas, c'est-à-dire qu'il y a c'est une hiérarchie.
C'est le degré, il y a une hiérarchie.
La matière, c'est ce qui est le plus dégradé. Et ce qu'on retrouve, enfin c'est très schématique ce que j'y mets, dans le christianisme, dans un certain mépris du corps. Alors que pour un matérialiste...
Mais pourquoi ? Parce que effectivement, ça a arrangé le christianisme qui n'avait pas de philosophie au départ. S'est intéressé à la... Ça l'intéressait d'utiliser ce qui pour lui était utilisable dans la philosophie grecque, qui était l'héritage qu'il y avait sur la main, parce que ça ne pouvait pas être l'hébreu, la tradition juive, parce que l'hébreu, tu vois, ce n'est pas une philosophie au sens occidental du terme, et qu'il fallait qu'il se démarque de l'hébreu. Donc la philosophie grecque, c'était impeccable dans ce qu'elle était parfaitement assimilable par le christianisme. Et ce qui était assimilable par le christianisme, c'était effectivement ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'il était possible pour le christianisme de transformer l'idée des premiers principes en l'idée de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. C'était facile de transposer un registre dans l'autre registre.
Mais le degré le plus bas n'est pas forcément un bas degré. Parce
alors, ça, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Ouais. Mais c'est lié au mauvais héritage, là aussi, du platonisme et des malentendus. C'est qu'on en a déduit un dualisme. Et ça, c'est la vision chrétienne. Et encore une certaine vision chrétienne. Je dis bien une certaine. La vulgate chrétienne du platonisme. C'est-à-dire, on a fait du platonisme un dualisme. C'est-à-dire une vision coupée en deux, où il y aurait d'un côté l'esprit, individualisé dans l'âme de chacun, et de l'autre côté le corps, renvoyant à la matière, et qu'il y aurait une coupure entre le corps et l'esprit, entre l'âme. Alors que dans ce que j'ai expliqué là, il n'y a pas de dualisme. Le fait que la cascade que j'expliquais, la cascade, la procession des êtres jusqu'au degré inférieur de la matière, il y a une continuité. C'est ça qu'il faut entendre, il n'y a pas de rupture de régime. D'être. Il y a une continuité. Il y a une différence d'intensité de l'être. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais il y a quand même une hiérarchie.
Hiérarchie ne veut pas dire qu'il n'y ait pas
de
continuité.
Platon, ceux qui ont le plus d'esprit, ils commandent. Et les artisans et même les artistes, ils sont en bas.
Il y a une hiérarchie. Mais hiérarchie ne veut pas dire coupure.
Non.
C'est pas l'idée d'une hiérarchie n'est pas incompatible avec l'idée d'une continuité. Alors que si on ramène ça à un dualisme, il y a une coupure. C'est quand même une différence essentielle. Essentielle.
Alors que dans l'épicurisme, le corps en tant que tel, en tant que matière, c'est une transcendance première.
Il y a une transcendance du matérialisme, effectivement. Mais on va y venir, je ne veux pas anticiper, mais d'un mot quand même pour avancer par des petits repères. Dans l'épicurisme, l'âme existe. Mais l'âme est matérielle. C'est le prolongement du corps. Enfin, l'âme et le corps ne s'opposent pas. L'âme, c'est une matière. La conséquence déterminante de cela dans l'épicurisme, c'est qu'il y a une mortalité de l'âme. Donc, vous voyez qu'à la fois, il faut penser la philosophie épicurienne et la philosophie stoïcienne comme deux pôles opposés en tension. Mais il ne faut pas les voir comme de façon dualiste, complètement duelle, non conciliable. Et je crois que pour moi, ça c'est important parce que c'est ce qui peut permettre de penser sa vie comme mise en tension entre ces deux pôles et concevoir sa vie avec le double mouvement, tension-relâchement, tension-relâchement. Ce qui, je crois, est important parce que si l'on considère l'existence, encore une fois, uniquement sous le joug de l'exigence stoïcienne ou même, d'une certaine manière, existentialiste, on est un homme sans repos. Or, une des visées de l'épicurisme, c'est le repos. L'objectif de l'épicurisme, c'est le repos. Le repos qu'on va entendre dans l'épicurisme selon le mot ataraxia, ataraxie, alors que le stoïcisme utilise parfois le mot ataraxia, mais ça va être plutôt la notion d'apatia, alors qui en français donne un mot catastrophique, apathie. Apatia, qui est quand même la visée du stoïcisme, c'est l'absence de souffrance. Pathos en grec, c'est le verbe patein, la souffrance, d'accord ? D'où sympathie, sympathein, qui veut dire souffrir avec. Apatia, c'est l'absence de souffrance. Ataraxie, ataraxia, donc, qui est le but de l'épicurisme, c'est l'absence de trouble. L'absence de ce qui vient troubler le repos de l'âme. L'absence de trouble, le synonyme, c'est pas un forçage, c'est vraiment ça, c'est le repos. L'absence de trouble, c'est un état de repos. L'âme est en repos parce qu'elle n'est pas troublée par quoi que ce soit. Et pour l'épicurisme, cette ataraxia, c'est cet état sans trouble, eh bien c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Donc on devine déjà une conséquence que je vais développer, c'est que le bonheur qui est la finalité de la philosophie épicurienne, le bonheur qui est le repos de l'âme, l'absence de trouble, ça va impliquer non pas la recherche d'expérience d'intensité des plaisirs, parce que l'intensité des plaisirs, où on casse les limites, ça provoque du trouble, du brise. Oui, oui. Alors, oui, tout à fait. Le bris.
Chercher ses limites, c'est philosophique, mais c'est pour pouvoir s'arrêter.
Oui, oui. Le bris, c'est vrai, donc qui se transcrit H-Y-B-R-U-S, on peut dire hubris ou hybris, hein, si on veut. C'est effectivement la colère, l'espèce de démesure d'énergie sans limite. Ça correspond un peu à ce que Georges Bataille avait appelé la dépense, l'excès, la notion de dépense chez Bataille. Bataille explique l'économie moderne et explique l'économie capitaliste par là. C'est pour ça que le capitalisme, ça c'est une parenthèse très importante. C'est pour ça que le capitalisme, on ne peut pas en faire qu'une analyse marxiste de rapport de force et de domination. Le capital contre le travail. Le capitalisme, c'est beaucoup plus... C'est, en d'autres termes, l'idéologie économique. Sur quoi repose le capitalisme ? Le capitalisme repose dans une société où l'économie, où il y a un consensus sur l'économie. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde sur le fait que ce qui est important, c'est l'économie. Vous voyez bien que le capitalisme ne pourrait pas se développer s'il n'y avait pas un consensus social qui dirait que l'économie, c'est le socle qui fonde tout, qui fonde les rapports sociaux, les existences, etc. Il faut qu'il y ait un consensus. D'ailleurs, quand en Afrique, c'est pas si vieux que ça, dans les années 50, les anthropologues le voient déjà. Quand en Afrique, des entreprises occidentales veulent s'implanter et mettre au travail la main-d'œuvre locale, c'est des échecs complets. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Donc, par exemple, ils ne cherchent pas à respecter les heures, les horaires. Donc, les horaires, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont encore dans une culture qui est complètement opposée avec cette philosophie économique qui fait que time is money, etc. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'ils font venir de la main-d'œuvre, et en particulier les petits cadres, les petits chefs occidentaux. Ça a été très long. Parce qu'il a fallu que la monnaie, peu à peu, se substitue aux rapports sociaux qui n'étaient pas basés sur la monnaie pour que ça marche peu à peu en Afrique. Mais là-dessus, Bataille, je pense qu'il est déterminant. Il a compris un truc. Et notamment, Bataille explique quoi ? Il explique pourquoi, parce que c'est une question d'actualité, l'idée de décroissance, fondamentalement, elle ne peut pas marcher. Et pourquoi ? Parce que Bataille explique que chez l'humain, il y a ce moteur qui est l'hubris, justement, qui est que l'humain n'obéit pas simplement à la rationalité du calcul économique, qui peut permettre, si elle était poussée au bout, qui pourrait permettre, effectivement, de modérer le principe d'accumulation sans fin. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'explique Bataille, c'est que ce n'est pas la rationalité du calcul économique qui dirige l'homo economicus moderne, c'est la logique de l'hubris, c'est-à-dire du désir, au fond, du désir sans fin, que lui appelle la dépense, la notion de dépense, qu'il observe y compris dans les sociétés indiennes qui étaient encore observables, indiennes, pas d'Inde, hein, mais indiennes d'Amérique, où il voit qu'il y a des processus d'accumulation de richesses. Donc, des anthropologues ont pensé que c'était le début de la logique et de l'économisme. Et pas du tout, parce qu'à un moment donné, il rassemble toutes les richesses accumulées, non dépensées, non consommées, et les brûle. Et les brûle en sacrifice aux dieux. Donc le processus d'accumulation n'obéit pas à une logique de calcul économique. Non, ce n'est pas un calcul, ça renvoie à cette notion de justifier religieusement d'excès, c'est-à-dire que pour les dieux, faut être dans l'excès. Alors Castaneda évoque ça. Enfin, tous les anthropologues qui se sont intéressés, également le dernier grand qui est mort, hélas, prématurément, j'en ai déjà parlé, c'est Pierre Clastres. Oui. Mais le problème, c'est que les Incas n'intéressent pas, effectivement, n'intéressent pas, parce que les Indiens, maintenant, dans les années 20, 30, les anthropologues, parce que l'Empire Inca a disparu. Voilà, ça vient des études d'anthropologues. Donc, ça vient d'études... La part maudite. Oui, sauf que Bataille s'appuie sur les observations empiriques.
Oui, mais moi j'ai découvert tout ça à travers Derrida, dans son article « Économie partielle, économie généralisée, dans l'écriture et la différence ».
Oui, oui, tout à fait.
Et si on lit Baudrillard dit « L'économisme et l'économie politique, c'est un délire, c'est un fétichisme
tout à fait, oui.
d'une logique économique qui met tout en avant ». Et c'est vrai que quand on le prend au sérieux et quand on se rend compte qu'effectivement, il y a une autre logique qui est celle de l'excès, et qui n'est pas la logique économique des physiocrates et tout, on se rend compte que notre monde est dans un délire économique, économiste, absolument mortifère, puisqu'on accepte sans esprit critique que ce soit le profit économique qui guide tout, et on voit aujourd'hui que c'est...
Où personne ne veut céder de ce désir-là. C'est une conception de l'homme. Ça, qui touche à quelle serait la nature humaine, je pense que c'est un débat sans fin, et que la seule façon de le trancher, c'est la philosophie, c'est en gros, c'est Rousseau, c'est l'acte de Rousseau. La façon de trancher ça, c'est en clair, c'est ce que dit aussi Milner. C'est d'une certaine manière une décision philosophique du sujet pensant, c'est-à-dire de chacun. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une décision à prendre au départ, on décide que l'homme est comme ça. C'est pour ça que le débat, par exemple, parce que ça rejoint ce débat aussi, Hobbes qui dit en gros l'homme est mauvais au départ, et Rousseau dit l'homme est beau. C'est pas des observations anthropologiques, d'ailleurs on est incapable de savoir comment était l'homme, le premier homme. C'est des décisions philosophiques, des postulats de départ à partir de quoi on va construire une pensée. Donc c'est au fond des décisions morales au départ. Mais on ne peut pas échapper à ça parce que c'est le fait de la liberté, ça. C'est qu'il y a au départ une décision libre à prendre à partir de quoi on va construire sa conception de l'existence et du monde. C'est une notion philosophique au départ,
et
oui.
Et soit d'un monde homogène et mathématique et à logique rigide, Lévinas ou Castoriadis dit « réensorbis identitaire », et si on change de philosophie, c'est parce qu'on se rend compte que ça mène à la catastrophe. Et que pour voir d'autres horizons et d'autres manières d'entrevoir le monde aujourd'hui, il faut effectivement en revenir
le
à
problème.
Des gens comme Bataille, comme Baudrillard, qui philosophiquement ont posé d'autres horizons. Parce que sinon, ça fait partie du lieu commun qu'il faut que la France se développe de manière économique, selon la loi du profit et tout.
Le problème, c'est qu'on est dans un bain de culture, et je ne dis pas d'économie, un bain de culture depuis plusieurs siècles, qui a cultivé l'illimité, la démesure, et que ce n'est pas évident que du jour au lendemain, genre de comportement. Je ne sais plus qui observait ça quand le mur de Berlin s'est effondré. Les Allemands de l'Est, qui étaient dans la fête, se sont précipités dans deux lieux, à Berlin-Ouest, les supermarchés et les sex-shops. Ça résume bien la chose. Quoi. Mais l'idée morale, plus que politique, auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui, la question morale plus que politique à laquelle l'Europe est confrontée, c'est acceptons de partager une toute petite parcelle avec l'étranger ou pas. Et on voit que l'Europe n'y est pas prête. C'est-à-dire que les gens... Pourquoi il y a plein de pays européens qui décident d'élire ? L'Italie est le meilleur exemple récent, malheureux. C'est terrible, quoi. Ils élisent et ça se renforce avec les élections municipales, ils élisent l'extrême droite sur la question des migrants. Mais je pense que le problème de la réticence à l'accueil des migrants, des peuples européens en général, n'est pas lié à ça. Et il est lié à ce que je disais avant, et c'est de l'ordre de symbolique et du fantasme. Pourquoi ? Parce que au niveau de l'Europe, les peuples qui sont le plus hostiles à l'arrivée de migrants, c'est des peuples qui n'ont aucune population étrangère sur leur sol. La Pologne, la Hongrie n'ont aucune population africaine ni arabe sur leur sol. Ce qui veut bien dire que c'est de l'ordre de la représentation mentale, ce que les Grecs appellent fantasme ou fantasia. Il y a les deux mots, je ne vais pas distinguer les deux mots là. En Italie, c'est pareil. Et en France, quand on regarde la cartographie de l'électorat Front National, on se rend compte qu'elle ne coïncide pas avec la carte d'implantation des populations immigrées. Les deux cartes sont complètement dissonantes. Et qu'en France en particulier, une région qui est extrêmement Front National, c'est la Côte d'Azur, PACA, mais surtout le sud de PACA, où il y a très peu, proportionnellement au 9-3 par exemple, très peu de populations immigrées. Très peu. Ce qui veut bien dire qu'on est dans des constructions mentales. Et des constructions mentales qui renvoient à une angoisse. Alors il faut pouvoir traiter cette angoisse. À une angoisse plus profonde, plus intense, des peuples européens qui est cette angoisse qui est liée à la peur de l'avenir, qui est liée au fait de se dire... On va avoir une puissance, une capacité à satisfaire notre désir illimité. On va avoir des limites, on va devoir partager. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux problèmes différents. Il y a le problème d'un côté sociologique et socio-économique, social, qui est l'échec de l'intégration des populations qui sont là depuis longtemps. Mais il y a un autre problème qui est qu'est-ce qui amène les gens au niveau de l'Europe globalement vers le fait de construire partout des murs symboliquement. Et ce n'est pas le même problème. Ce sont deux problèmes différents. C'est simplement ça que je veux dire. Parce que ça a à voir au sens où je partage, je vous rappelle le point de départ, sur la question de l'hubris et donc la question de l'excès, la question de la au plaisir comme visée du désir, la question de l'illimité, telle que la pose par exemple Milner ou bien d'autres. Je vous rappelle le point de départ de toute la discussion qu'il faut avoir en tête, c'était ça le point de départ. Alors justement, ça c'est l'hédonisme, qui a été le moteur d'une certaine manière de l'idéologie économique, qui est le socle du développement du capitalisme. Du capitalisme financier et consumériste, comme dirait Baudrillard, pour le coup, qui n'est pas le... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un changement complet du socle philosophique du capitalisme. Le capitalisme s'est développé au XVIIIe et XIXe siècle sur la valeur de la production de l'économie, au sens de l'épargne, cette fois, et du travail, c'est-à-dire la valeur de la durée. La durée, c'est je diffère le moment de ma jouissance parce que dans un second temps, je jouirai mieux de ce que j'ai obtenu par mon travail. Ça, c'est le capitalisme industriel dont on comprend qu'il se raccroche complètement, et je vous renvoie à Max Weber, notamment, à la philosophie calviniste, au protestantisme calviniste en particulier. Il y a une rupture progressive qui fait qu'un nouveau capitalisme va naître, dont Weber avait eu l'intuition, je le rappelle, qu'il désignait sous le terme, il prenait pas de gants, le capitalisme voyou, qui va donner le capitalisme financier contemporain, qui est le capitalisme qui est plus du tout basé sur cette éthique protestante, qui subsiste encore aujourd'hui, et qui donnait d'extrêmes limites. Vous savez que les capitalistes industriels du 19e étaient des gens qui avaient un mode de vie complètement ascétique. Ils ne faisaient que bosser, ils ne jouissaient absolument pas d'une fortune quelconque. Le capitalisme financier qui s'est développé peu à peu, c'est le capitalisme consumériste, qui lui s'appuie non plus du tout sur une culture, une philosophie de la 16, qui s'appuie sur
qui s'appuie sur
précisément l'illimité du désir, la notion de dépense, l'hubris, la démesure, etc. Ce qui est notre monde actuel. Et cette rupture, ce qui est une rupture déterminante, quoi. Donc on est passé d'une morale de la limitation à une immoralité du sans limite, si vous voulez. Vous voyez la logique. Oui, mais parce que les démocraties se sont appuyées, là aussi il y a une rupture, sur l'individu, la valeur de l'individu. Donc qui a fini par donner la culture de l'individualisme, économique. Mais là, je vous renvoie aux travaux de ce philosophe et anthropologue qui est déterminant, qui s'appelle Louis Dumont, qui a étudié aussi bien la société indienne d'Inde par caste, dans un livre magnifique qui s'appelle Homo Hierarchicus, et la société occidentale moderne qui prône l'individu égalitaire et qui est basée sur la valeur de l'individu, et notamment dans un livre qui s'appelle Homo Aequalis. Et il y a un autre livre aussi de Dumont qui est, alors le titre exact je ne sais plus, c'est peut-être Naissance de l'individualisme moderne, quelque chose. Dumont, D-U-M-O-N-T. C'est des livres fondamentaux. C'est un grand anthropologue et philosophe qui est mort il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà donc les enjeux actuels qui ne sont pas sans rapport avec le malentendu autour de l'épicurisme aujourd'hui. Le malentendu épicurien s'explique par notre évolution. Alors entendez-moi, j'en terminerai avec cette précision sur l'actualité. Ce capitalisme voyou qui a, pour reprendre les catégories weberiennes, qui a pris le dessus sur le capitalisme calviniste, on va dire, c'est l'évolution actuelle. Ça ne veut pas dire que le capitalisme industriel calviniste est disparu complètement. Encore une fois, je pense qu'on peut expliquer à partir de là, je l'avais déjà évoqué, c'est juste une allusion qui ne doit pas amener de débat maintenant, la position de Merkel et l'échec qu'elle est en train de connaître, y compris sa position qui a été d'un côté très dure par rapport à la Grèce. Sa position très dure par rapport à la Grèce, c'était quoi? C'était sa rigidité protestante, prussienne. Alors, les Grecs n'ont pas travaillé, ne travaillent pas comme il faut. Il n'y a pas de raison qu'ils sont endettés, il n'y a pas de raison que nous qui bossons, on aille à leur secours. Donc ça explique ça chez Merkel, mais ça explique chez Merkel aussi. Alors j'entends bien l'objection qu'elle avait des intérêts démographiques, mais ce n'est pas ça qui est le fond du problème. Sa position d'ouverture par rapport aux migrants, justement, qu'elle est en train de payer cher aujourd'hui, parce que, du coup, elle alimente non pas tant le parti d'extrême droite en Allemagne. Je crois que l'Allemagne est suffisamment encore vaccinée durablement par rapport aux nazis. Par contre, c'est plus le réveil de la CSU bavaroise qui est inquiétant et qui peut complètement la laminer. Parce que vous savez, la CDU, qui est le parti démocrate chrétien, a toujours eu le pouvoir avec son alliance avec la CSU, qui est le parti démocrate chrétien de très à droite de la Bavière. La Bavière étant catholique, la CDU étant plutôt sur les partis protestants de l'Allemagne, quoi. Et cette alliance qui faisait que tout le monde a cru en France, les gens croyaient que c'était le même parti, est en train de voler en éclats et ça va remettre complètement en cause l'équilibre des pouvoirs en Allemagne, quoi. Voilà, bref. Donc, j'en termine sur l'actualité pour expliquer que ne restons pas dans ce malentendu sur l'épicurisme, qui n'est pas l'hédonisme de l'illimité des plaisirs dans leur intensité et du désir. L'épicurisme, donc, est une morale qu'on va explorer peu à peu. Mais quand même, resituons très rapidement, ne m'intéresse pas, on n'est pas là pour ça, de faire de l'histoire de la Grèce antique. Donc juste deux, trois repères. L'épicurisme, donc le fondateur, c'est Épicure, philosophe grec, qui, dans l'existence, c'est en gros les bornes, c'est moins 342. Donc ça, c'est sa naissance, qu'on situe à moins 342, donc le 4e siècle avant notre ère. Et sa mort, c'est moins 270. Donc vous voyez, en gros, il vit sur le 4e, 3e siècle avant notre ère commune. Je rappelle, parce que je l'avais abordé pour le stoïcisme, que c'est la période hellénistique de la Grèce. Je reviens un instant après là-dessus. La période hellénistique, je rappelle que c'est la période où aussi se développe le stoïcisme. Zénon, juste un autre père, mais je reviens ensuite à la période hellénistique sur deux, trois points de rappel. L'épicurisme dure aussi très longtemps comme le stoïcisme, donc c'est des courants philosophiques qui sont solides, parce qu'ils se prolongent jusqu'à l'Empire romain, on va dire. Alors, il est moins long, il dure moins longtemps toutefois que le stoïcisme. Hein. Mais l'autre figure repère de l'épicurisme, c'est Lucrèce, le poète-philosophe Lucrèce, dont les dates approximatives, on ne connaît pas ces dates, c'est moins 98, moins 55. Donc là, c'est la Rome, la République romaine qui est en train de s'effondrer et l'arrivée après de l'Empire romain. Donc, grande figure dont je rappelle là un mot, je vais revenir un petit peu sur Lucrèce, parce que c'est les deux figures qu'on va aborder. Lucrèce est surtout connue, et on a une bonne connaissance de l'épicurisme à travers ce livre, par un livre majeur, qui est ça, De Natura Rerum ou De Rerum Natura, il y a les deux formules. Là, le titre c'est De Rerum Natura, mais on dit souvent De Natura Rerum. Là, c'est simplement traduit dans cette édition par De la Nature, parce que au fond, le titre veut dire De la Nature des Choses. Mais De la Nature des Choses, c'est pléonastique en latin et dans l'épicurisme. De la Nature des Choses, c'est forcément de la nature. D'accord ? C'est la physis et la science physique au sens antique du terme. C'est un poème, un long poème. C'est en vers, c'est un poème extraordinaire. Mais un poème philosophique et qui est, d'une certaine manière, une vulgarisation, une transmission, une traduction au sens antique du terme, j'y reviendrai, de la philosophie d'Épicure. Et donc aussi, c'est un éloge à Épicure, il évoque à plusieurs reprises. Mais revenons-en à l'origine, donc à Épicure proprement dit, et à la période hellénistique. On se heurte au même problème que le stoïcisme, exactement au même, c'est que, comme pour Zénon, on n'a quasiment aucun texte écrit direct d'Épicure. On a deux, trois lettres, et encore qui sont des lettres fragmentaires et indirectes qu'on a eues par la suite, et notamment aussi par Plutarque. Voilà. Donc, d'Épicure proprement dit, on a peu de choses. Ce qu'on a, c'est des témoignages indirects, comme pour le stoïcisme d'origine, à travers notamment Plutarque et ses vies parallèles, et c'est aussi à travers des transmetteurs bien tardifs, comme notamment, en particulier, Lucrèce et son poème, son long poème. Alors, l'avantage de l'épicurisme qui permet de minorer cet inconvénient majeur de l'absence de source, de l'absence de texte fondateur important, c'est que la philosophie épicurienne n'a pas bougé. Sur 4 siècles, elle n'a pas bougé. Elle est restée constante. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on peut apercevoir à travers les fragments d'Épicure, notamment la fameuse lettre à Ménécée que je vais aborder, Ménécée. Cette fameuse lettre d'Épicure, qui est un texte direct d'Épicure, ou ce qu'on retrouve dans le poème De Rerum Natura ou De Natura Rerum, on se rend compte qu'il n'y a pas d'inflexion, que fondamentalement, la pensée est la même. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transformation, il y a une permanence. Une précision importante, c'est qu'il y a une école. C'est-à-dire que l'enseignement d'Épicure va se jouer, comme pour toutes les philosophies grecques, je l'avais évoqué, je le rappelle, à travers la fondation d'une école. Le portique pour les stoïciens, l'académie pour les platoniciens, le portique stoa en grec qui donne le mot stoïcien, et le trottoir pour les aristotéliciens, d'où le fait que je le rappelle, les aristotéliciens, on les appelle dans la Grèce les péripatéticiens. Mais en fait, leur lieu, c'est le lycée. Et pour Épicure, c'est le fameux jardin. Le jardin d'Épicure. Donc c'est une école fondée par Épicure, et comme toute école, mais il ne faut pas y voir une hiérarchie autoritaire et forte. Il faut voir plutôt une communauté de vie organisée autour de celui qui enseigne, du maître. Mais le maître, aujourd'hui, on a du mal à accepter de la notion de maître, sauf peut-être la maîtresse d'école ou le maître d'école encore. Le maître n'est pas cette espèce de dictateur hiérarchique, de même que le maître d'école. Mais c'est pour ça que l'appellation professeur des écoles est catastrophique. Elle en dit long. Les mots sont très importants. Et les évolutions de la façon de nommer sont très importantes. Professeur des écoles, c'est une appellation catastrophique. Maître, ça renvoie à cette tradition grecque. Et le maître, c'est pas une hiérarchie, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui éveille. C'est à la fois un traducteur, un transmetteur, un éveilleur. Donc, le maître autour duquel s'organisent les écoles, ce n'est pas une chaîne d'hommes à part, de dictature, c'est le point d'organisation d'une communauté de vie où, au fond, tout le monde était sur le même plan d'égalité. Ce qu'on retrouve aussi, d'une certaine manière, parce que ça, c'est des traditions ici, de l'étude issue de l'Antiquité. On retrouve ça dans bien des traditions orientales, mais je connais mal. Mais par contre, on retrouve ça dans la tradition des maisons d'études de l'hébreu, par exemple. Et l'objectif, c'est que l'élève, comme on dit couramment, mais ce n'est pas une formule creuse, dépasse le maître. À un moment donné, le maître, par l'élève, est supplanté par l'élève. Qu'on n'entende pas ce mot évolution dans le sens d'un synonyme de progrès. Parce qu'il n'y a pas de progrès. On ne pourrait pas dire que les derniers épicuriens seraient plus forts que les premiers, ou que les derniers platoniciens seraient plus forts que les premiers, ou que les philosophes d'aujourd'hui seraient plus forts que les philosophes grecs. Il n'y a pas de progrès, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des changements aussi de point de vue qui font voir autre chose, qui font considérer les questions un peu différemment, qui les déplacent. Il y a dialectique au sens, effectivement, du premier du terme, au sens socratique, au sens de ce dialogue. Donc il y a une école épicurienne qui va continuer de l'origine jusqu'à Rome et qui va aboutir à des transmissions comme cela de la pensée. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas voir l'école dans un lieu unique. Par exemple, du temps de Lucrèce, il y a plusieurs foyers de l'épicurisme, plusieurs écoles, et notamment un foyer important, c'est la région de Campanie en Italie. La Campanie, vous connaissez cette région, c'était un foyer d'épicurisme du temps de Lucrèce extraordinaire. Donc ça se disséminait, ça. Et Lucrèce a eu des maîtres qu'on connaît plus, je vous fais grâce du nom, des maîtres qui l'ont enseigné en épicurisme. Donc il connaissait la chose, il était instruit. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore un petit peu? Donc quelques mots sur Épicure quand même. Non, on le considère pas comme tel. Tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas dire Covid, Tite-Live, soit des gens qui traduisent, contrairement à Lucrèce, une pensée philosophique. C'est vraiment plus de la littérature, si on veut prendre nos catégories. Épicure, donc, n'était pas originaire d'Athènes, mais il s'installe à Athènes très jeune pour suivre un enseignement. Pour s'inscrire à ce qu'on appelait à l'époque l'éphébie, E-P-H-E-B-I-E, ça renvoie à Éphèbe, c'est-à-dire c'est un mot grec, Éphébos, qui désigne l'âge l'âge, alors c'est pas tout à fait les mêmes âges biologiques qu'aujourd'hui, l'âge qui était le passage de l'enfant, on pourrait dire l'adolescence, le passage de l'enfance vers la vie adulte, qui pour le grec, pour l'athénien, se faisait à travers l'enseignement, à travers l'éducation. L'éducation d'ailleurs aussi bien de l'intellect que du corps, hein. C'est-à-dire que le gymnase, ce qu'on retrouve par exemple dans les pays germaniques, le gymnase, gymnasium, c'est le lycée. Et le gymnase, c'était le lieu d'éducation des jeunes et faibles, aussi bien du corps que de l'esprit. C'est pour ça que toutes les visions simplistes du dualisme grec sont des visions complètement simplistes et même fausses. Donc, il reçoit un enseignement d'un démocritien, c'est-à-dire quelqu'un qui était issu de l'école de Démocrite. Donc il reçoit un enseignement qui est avant tout basé sur Démocrite, c'est une école de pensée matérialiste, mais qui développe essentiellement une théorie physique du monde. C'est une physique. Ça ne développe pas réellement une pensée morale, par exemple, une éthique. Ce qui explique que Épicure va commencer par fonder une théorie physique, une physis, qui est une physique qui doit très largement tout, avec peu de transformation, à Démocrite. Et donc, il s'installe ensuite définitivement à Athènes en -306, si vous voulez poursuivre des repères, et c'est là qu'il fonde son fameux jardin, où jusqu'à sa mort, il va enseigner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va connaître la peste, il va connaître la peste d'Athènes, et contrairement, par exemple, à Platon, qui n'évoque pas du tout, c'est ce que font beaucoup, la critique des anti-platoniciens, c'est de dire, mais Platon s'est pas intéressé aux conditions de vie matérielles des gens, et notamment à la peste, à l'esclavage, etc. C'est pas juste, parce qu'on l'avait vu l'an dernier, c'est pour ceux qui y étaient, Platon s'est quand même intéressé au problème de la dictature, des tyrans, bref. Par contre, il est clair que plongé dans toutes les calamités qui frappent Athènes, Épicure va les évoquer, et de même que Lucrèce les évoquera, etc. Tous les fléaux matériels concrets qui frappent la société contemporaine, la société où ils vivent. Et donc, Épicure va partir de sa physique, héritée de Démocrite, pour tenter de répondre aux questions concrètes de l'existence que pose à tout un chacun, de ses contemporains, que pose la situation d'Athènes à l'époque, qui est une situation qui est celle de la période hellénistique, que je résume rapidement parce que nous l'avions abordée pour le stoïcisme, qui est une situation de déstabilisation complète. La cité d'Athènes, comme petit monde organisé, stable, d'une démocratie refermée sur elle-même, a éclaté. Athènes a été vaincue, et sous le joug de l'Empire de Macédoine, Alexandre, Philippe d'abord, le père, et Alexandre le Grand est passé par là. Donc la Grèce, à travers la Macédoine, est devenue un empire monde, jusqu'aux confins de l'Orient, aux confins de l'Inde, de l'Indus. Il y a des migrations internes à tout ce monde très importantes, des déplacements de population. C'est pour ça que les philosophes grecs connaissent et s'intéressent aux philosophies orientales. Les populations se mélangent. Mais en même temps, il y a une perte de tous les repères traditionnels. Je vous rappelle que la polis, la cité athénienne, était fondée sur des principes très, très précis, c'est-à-dire qui donnaient une identité forte, notamment le principe d'autonomie et d'autarcie. Ces principes ont volé en éclats. Et on change de dimension, on passe d'une petite échelle, d'une petite communauté, à un empire-monde. C'est-à-dire qu'en gros, pour les Grecs, c'était le monde entier. C'était la mondialisation. On était dans la mondialisation, brusquement, avec les mélanges de populations, la porosité des frontières amenant des populations diverses, mais aussi des idées diverses, etc. Il résulte de ça une angoisse de l'homme grec de la période hellénistique. Une angoisse pour l'avenir. L'homme grec a peur réellement qu'on arrive à une espèce de fin du monde, d'autant plus qu'il y a ces phénomènes des épidémies, peste d'Athènes, qui est quand même un choc terrible. Donc l'homme grec, l'homme athénien ne sait pas où va le monde. L'avenir, il a du mal à se projeter dessus. Il a peur parce qu'il y avait un équilibre qui s'était instauré entre les hommes et les dieux. Il y avait l'idée que le logos et la conformité de l'existence par le logos permettaient une harmonie de la société et du cosmos. Selon cette image des poupées russes, la cité d'Athènes était une poupée russe qui était englobée et qui épousait la même forme. Il y avait des analogies avec le cosmos et il y avait des correspondances. Donc il y avait une harmonie qui était rendue possible. Et les dieux faisaient partie de cette harmonie. Là, l'homme grec a le sentiment que l'harmonie est rompue, que le chaos est présent, est une menace. Hein, je rappelle que le mot chaos vient du grec chaos, hein, qu'on peut transcrire de la même façon que le mot chaos. Autrement, en grec, c'est chi, alpha, omicron et sigma, pour ceux qui connaissent le grec. Alors, chi en grec, je vous rappelle, c'est pas, il y a deux que en grec, il y a le kappa et le chi. Kappa, c'est le k, c'est le que. Chi, il y a du h dedans. Donc, c'est pour ça qu'on transcrit le qui par ch, ou éventuellement kh, c'est assez long, les conventions des transcriptions. Bref, donc le chaos est imminent, on le vit, et on a peur de l'influence des dieux sur les hommes, des dieux sur le monde et sur les hommes. Je dirais presque que c'est la peur simpliste des Gaulois que le ciel leur tombe sur la tête, quoi. Donc, face à ça, je l'avais dit pour le stoïcisme, il y a une demande sociale, comme on dirait aujourd'hui, importante, à trouver des solutions pour vivre quand même, pour vivre et pas se suicider. Le suicide n'étant pas pour les Grecs une abomination, hein, cela dit. C'est pour ça que le suicide de Socrate n'est pas une abomination. Ce qui est une abomination, c'est qu'il ait fait un pied de nez au juge, au tribunal. Il a échappé à sa mise à mort, vu que c'est lui qui a décidé de mettre fin à ses... Il est resté maître. Pour les Grecs, la mort n'est pas un problème. Pour les Grecs, la mort n'est pas un problème. Donc le suicide n'est pas un problème. Donc il faut une réponse. Et les philosophies et les écoles de pensée grecques, philosophiques de la Grèce hellénistique, vont apporter les réponses appropriées pour les uns et pour les autres. Après, c'est des décisions personnelles, puis les circonstances. On va être stoïcien au gré du vent et des circonstances, ou épicurien. Mais ces deux écoles, pour s'en tenir simplement à ces deux-là, vont apporter des réponses. Donc on a vu les réponses du stoïcisme, je n'y reviens pas. C'est qui sont des réponses qui consistent à construire une morale. Hein. L'épicurisme va fonder aussi une morale qui va être une réponse, qui va apporter une réponse, qui va être très séduisante, qui va séduire aussi beaucoup de gens. Morale qui va être très différente. Que faire quand le ciel va nous tomber sur la tête? Il y a plusieurs réponses possibles, mais la réponse de l'épicurisme, elle est claire, qu'elle va être très différente de celle du stoïcisme. Un mot, je m'éloigne un instant d'Épicure pour venir à l'épicurisme romain et à Lucrèce. Un mot pour dire que Lucrèce et les épicuriens de cette période romaine sont confrontés au même problème. C'est-à-dire que Rome et dans le chaos. La République romaine, qui avait structuré une société démocratique, qui connaissait une certaine harmonie, va s'effondrer. Ça va être le passage à l'Empire avec des alternances de dictateurs, d'empereurs-dictateurs, d'empereurs plus humanistes. Il y a l'arrivée du christianisme par la suite qui va aussi être un chamboulement important, qui va peu à peu amener à proscrire, à rejeter les Grecs, enfin les Grecs au sens de ceux qui sont inspirés par les philosophes grecs. Et puis surtout, il y a des bouleversements sociaux importants. Juste un épisode, parce que je ne veux pas développer l'histoire pour elle-même là maintenant. Mais la révolte de Spartacus, la révolte de l'esclave Spartacus, la révolte sociale, il y a une espèce de révolution sociale à l'époque, c'est cette époque-là. Dans la période de Lucrèce, passez-moi l'expression, c'est aussi le bordel. Et avec une répression terrible d'espèces de tyrans successifs, de tyrans oppresseurs qui vont mater le peuple. Il y a aussi la révolte des peuples qui n'étaient pas d'origine romaine, mais qui sont inclus au fur et à mesure de l'expansion de Rome, et qui à cette époque se révoltent contre le joug romain qui en fait aspire leur richesse pour le bénéfice de Rome. Donc, période d'instabilité et d'insécurité très importante. C'est aussi une période où vont se connaître une première phase de pain et de jeu. Et d'ailleurs, dans son poème, il y a des passages où Lucrèce évoque cela. Ce qui prouve bien que, pour Lucrèce, témoin de ces turbulences, l'épicurisme, c'est une réponse. C'est une réponse. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, l'épicurisme, c'est une pratique. C'est une philosophie pratique, fondamentalement. Quelques mots globaux sur cette philosophie que l'on peut discerner en trois strates, en trois parties, qui sont des parties traditionnelles. Il y a une logique, il y a une physique, et il y a une, on va dire, morale. Morale, je dirais presque une pragmatique. Ce qui est important, c'est que les deux premières strates vont constituer le socle de la morale. C'est-à-dire que la morale, qui est une pragmatique, au sens, je dirais presque courant contemporain du terme, ce qui est une pragmatique, c'est une théorie de la pratique, d'accord ? Pragma en grec. Pragma, c'est... On a pu ça, traduire ça aussi par les affaires courantes. Pragma, c'est les affaires du quotidien. Donc, la logique et la physique en quelques mots. Ce qui est important à retenir et à connaître, parce qu'en plus, c'est drôle. C'est drôle et peut-être aussi, pas simplement folklorique, mais contemporain. Probablement que les physiciens, et notamment les astrophysiciens actuels, y reviennent par certains aspects. Donc, dans cette physique qui n'est pas que folklorique, il y a peut-être des intuitions géniales. Alors, de quoi s'agit-il ? Un premier point essentiel qui fonde la logique, c'est le cheminement intellectuel, la méthode. La méthode, ben, ça va être un cheminement qui fonde la science moderne. C'est-à-dire qu'en gros, tout part du pathos, des passions. Tout part, en d'autres termes encore, de l'expérience sensible, du rapport sensible, des sensations, c'est-à-dire. Des sensations au monde. Des sensations au monde qui renvoient au corps, à l'expérience du corps dans le monde. Donc aux affectations, les phénomènes qui affectent, qui nous affectent comme corps. Donc qui nous affectent comme corps au niveau des affects, c'est-à-dire au niveau de l'âme, mais l'âme étant le corps. Et des sensations sensibles qui nous affectent à travers les sens. Toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. Donc c'est la sensation tangible qui fonde la connaissance, qui fonde le rapport construit que l'on peut avoir par l'intellect au monde. Donc vous voyez en quoi on est loin d'un dualisme, bien au contraire. Donc pour Épicure, le réel, on va dire ça, le réel, c'est ce qui se fait sentir, c'est ce qui s'éprouve à travers les sensations. Et ça se construit comment les sensations, en continuité, vont devenir des connaissances, une physis, par l'intermédiaire d'images que l'esprit construit. Les sensations vont devenir des images, ou en d'autres termes, des fantasias, ce qu'on peut traduire par des simulacres, des fantasias, des images, à partir desquelles va se construire une connaissance. Vous voyez le cheminement. En d'autres termes, aussi, ces simulacres, c'est des représentations. Et dont... Alors, la mémoire va être extrêmement importante parce que l'esprit, l'intellect, va les mémoriser. On se mémorise ces images. Donc, il y a des espèces de compositions d'images. Eh bien, c'est Proust. C'est Proust. Fondamentalement, la recherche du temps perdu, c'est ça. La recherche, c'est précisément ce cheminement-là. Et la mémoire joue un rôle évidemment essentiel. Parce que si on n'avait pas la mémoire des sensations, si les sensations c'était des sensations de l'instant qu'on oubliait aussitôt, à partir de là ne pourrait pas se construire par l'intellect une connaissance.
C'est des empiristes.
Alors on peut même dire que oui, mais c'est pas contradictoire, on peut même dire que c'est du matérialisme. C'est ça le matérialisme, c'est une pensée matérialiste. Mais j'y viendrai plus à fond et à la lumière de notamment de Guillardreau sur le matérialisme, parce que là aussi il y a beaucoup de malentendus. Et un des malentendus, je vous dis juste ça en passant, mais on y reviendra. On croit, vu l'étymologie du mot français, matérialiste c'est matière. Sauf que c'est plus compliqué que ça, c'est pas la matière, c'est pas. Et encore moins la consommation de matière, la consommation de marchandises. Le matérialisme, c'est pas du tout ça. C'est en ce sens-là que certains peuvent dire que Platon, c'est une philosophie matérialiste. Ce qui peut paraître aberrant, et pourtant, ça se défend tout à fait. Bref, on y reviendra, donc ce n'est qu'une point de repère. Donc, si on veut bien dire que la science, la connaissance, c'est une recherche de vérité, c'est forger des propositions sur le monde qui soit vrai, ça suppose la dichotomie grecque essentielle, c'est bien une dichotomie entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Si on n'accepte pas cela, il faut renoncer à toute idée de connaissance et toute idée de science. Si on pense que le vrai et la faux, ça n'existe pas, que tout équivaut, il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance. Donc il faut admettre qu'il y a des propositions vraies, c'est-à-dire qui peuvent dire le monde, donner une représentation juste, exact du monde, et qu'il y a des propositions fausses qui ne donnent pas une connaissance, une représentation exacte du monde. Or, pour l'épicurisme, c'est les sensations, c'est la fidélité à l'expérience première des sensations, l'expérience sensible, empirique, qui va être le critère de la vérité des propositions qu'on élabore, de la connaissance qu'on élabore. Vous voyez ? Eh bien, la science contemporaine, depuis, je dirais, Galilée, est basée là-dessus. Et ça va être à la Renaissance, ça, la rupture avec la connaissance dogmatique de l'Église. D'où le fait que l'Église va considérer comme hérétique des gens comme Galilée, etc. Galilée, je vous rappelle, son expérience l'amène à dire, mais non, la Terre n'est pas au centre du monde. La Terre tourne autour. C'est un globe qui tourne autour du Soleil, ce qui a été condamné comme hérésie. Mais ça, il est parti de l'expérience des sens. De même que Galilée passait sa vie au sommet de la tour de Pise, qui était déjà penchée, parce qu'elle s'est trouvée penchée dès sa construction à cause d'un sol incertain. C'est pour ça qu'elle penchait de plus en plus. Et je ne sais pas où c'en est, on a entrepris des travaux faramineux pour couler ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Récemment, on coule des piliers de béton jusqu'à une couche à 20, 30, 40, 50 mètres du sous-sol qui vont servir de fondement. Ces piliers de béton trouvent une couche solide. Et vous savez qu'on fait ça en banlieue parisienne aujourd'hui. Et non, mais parce que, sur d'abord les piliers. En région parisienne, vous savez qu'il y a plein de villas qui ont été construites là-bas, en banlieue, où on est obligé de couler ce béton-là parce que c'est construit sur des anciennes carrières. Et tout menace de s'effondrer, quoi. C'est du gruyère, là, le bassin parisien. Bref. Pascal, il n'a pas tout à fait cette vision-là, exactement. L'objection qu'on peut apporter à cette conception de la vérité, c'est quoi ? C'est le fait que les sens peuvent nous abuser. Les sens, d'où produire des fantasias, c'est-à-dire des simulacres au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire des trompe-l'œil, chimères. Sauf que, on va voir l'épicurisme, a une objection à cette objection. C'est en ce sens-là que les Grecs anciens, c'était pas des naïfs primaires. Ils ont objecté à toutes les objections qu'on peut faire, y compris les plus contemporaines, etc. L'objection, c'est la suivante. C'est que, donc je vous rappelle, la proposition de l'épicuriste, c'est les sensations et la justesse, la fidélité dans la construction par les images de la connaissance à la sensation, à l'expérience sensible, qui fondent la vérité, une proposition fausse. L'objection d'Épicure, c'est de dire, mais ce n'est pas la sensation qui est l'erreur. La sensation est toujours vraie. Si on se brûle par le toucher, la sensation et la douleur de brûlure, elle est vraie, on ne peut pas dire qu'elle soit fausse. À l'inverse, si en touchant quelque chose d'agréable, on a une sensation de plaisir, la sensation, elle est vraie, elle n'est pas fausse. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une fantasia. La sensation est vraie. Ce qui est faux, c'est la représentation que l'on se fait de la sensation, l'image que l'on va se construire, d'où l'ambiguïté du mot fantasia, du mot simulacre. C'est le trompe-l'œil. Mais le trompe-l'œil est mental. Mais ce que dit Épicure, c'est que le chemin qui part de la sensation jusqu'à la proposition de connaissance, c'est ce chemin qui est faux, qui est le chemin de l'intellect. C'est pas la sensation, c'est pas le point de départ qui est faux. Et la science procède comme cela. La science procède toujours par essai-erreur, mais les essais et les erreurs ne partent pas de la remise en cause de la sensation. Ils partent de la construction mentale, intellectuelle qui est faite. On remet en cause la construction. En gros, c'est le point de vue qui est faux. La position qu'on a, mais ce n'est pas la sensation. Ben, la connaissance, c'est cette représentation qui s'efforce, qui est une construction mentale, par les mots, qui s'efforce de donner une représentation du monde la plus juste, la plus en adéquation avec la réalité du monde. C'est pas pour autant que la science physique est à jeter globalement et qu'il n'y a pas de connaissance du monde qui soit juste, mais on avance. Quoi. En gros, c'est que le problème, c'est que Épicure le dit comme ça autrement, c'est que l'image qu'on se construit et dont on a la mémoire avec la sensation, et notamment la mémoire d'image qui se compose, d'image multiple qui se combine, peut provoquer dans l'esprit des affects, des passions, et que les passions peuvent nous aveugler, peuvent nous induire en erreur, peuvent provoquer ces erreurs, et peuvent nous détourner du rapport immédiat à la sensation, peuvent nous faire écran, nous éloigner, faire écran à la sensation de l'expérience, à l'expérience sensible de l'époque. On s'en éloigne dans la construction, et notamment ce qu'explique Épicure, et aussi encore plus Lucrèce dans ce poème, c'est qu'au fond, les combinaisons d'images résultant des sensations qu'on garde en mémoire peuvent là se traduire par des, y compris jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, des faux souvenirs, y compris cela. Quoi. Ça, ce qui est vrai, je retiens juste ça parce qu'on ne peut pas s'engouffrer dans Pascal là maintenant, c'est que Pascal induit une perspective qui est en rupture, qui est en critique par rapport à... Pascal est beaucoup plus platonicien. Même si c'est... Terminer avec cela, parce que je vois l'heure, Épicure forge un mot qu'on peut directement traduire, un concept, on va dire, par le mot essentiel en français, dans toute l'épistémologie, le mot de prénotion. C'est-à-dire qu'en gros, ces images combinées que l'on a dans l'esprit par la mémoire, ce sont des prénotions. Et la prénotion est un concept éminemment contemporain dans toute l'épistémologie des sciences. C'est-à-dire qu'en gros, l'épistémologie des sciences montre comment la démarche scientifique part des prénotions pour construire ensuite, par tout le travail critique de l'intellect, du logos, des notions. C'est le travail de Bachelard, entre autres, oui, tout à fait. Oui,
les prénotions ne sont pas des concepts. Ce ne sont pas des concepts.
Non, c'est des prénotions.
Oui. Mais elles peuvent permettre de faire des concepts.
Oui,
tout à fait. Et sans elles, peut-être on ne ferait pas de concept. Non.
Oui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de mots directement en grec qui le disent. Il n'y a pas l'équivalent de prénotions. Alors, juste pour dire, à partir de là, l'épicurisme ne nie pas qu'il y ait des dieux, mais... Ce qui est important, c'est que les dieux sont des étangs qui constituent des éléments du monde, mais qui ne sont pas déterminants, qui ne sont pas des causes. Parce qu'il va en tirer par cette démarche de l'expérience sensible que les dieux n'ont aucune influence sur le monde et par exemple la vie des arbres. Et ça, l'expérience sensible le montre. Donc les dieux existent, il admet les dieux, mais les dieux ce n'est pas, donc il s'embarque pas dans une mystique ou un spiritualisme à partir de l'esprit. Disons que c'est une pensée matérialiste, mais dans un sens qu'il faudra clarifier la prochaine fois. Alors, j'ajoute vite cela, mais je vais arrêter là, mais j'ajoute vite ça pour que vous ayez un schéma en tête. De cela va découler une physique, qui est très intéressante, alors qui est connue, qui développe dans son poème, notamment Lucrèce, qui est une physique qui est inspirée de Démocrite, atomiste. C'est en gros, le monde est constitué d'atomes, d'une chute d'atomes perpétuelle dans le vide. Donc c'est une chute infinie d'atomes qui sont la plus petite particule pour lui, qui tombe dans le vide, à travers le vide, et c'est une chute sans fin. Alors ça ne peut rien donner, sauf qu'il y a une notion qui est magnifique, qui est à la fois poétique et scientifique et fondée, c'est la notion que en grec on appelle klinamen, C-L-I-N-A-M-E-N, le klinamen. Le klinamen, c'est que dans leur chute, les atomes connaissent une légère déviation, qui est due au hasard, et qui fait que les atomes vont devenir des corps composés, parce qu'ils vont s'agréger les uns aux autres par les déviations. Et donc ça va faire des corps composés de formes infiniment variées. Donc ça va créer une multiplicité infinie de formes, de corps composés, des formes différentes, qui vont constituer le monde. Ce qui est intéressant, donc il y a eu du hasard, c'est que du coup c'est une physique qui fonde la liberté. Et l'épicurisme peut être une morale parce qu'il y a de la liberté. Le hasard, c'est quoi? C'est un principe d'incertitude. C'est l'opposé d'une vision déterministe. Le déterminisme ne permet pas de liberté. Si, en gros, en d'autres termes, si tout est déjà défini au départ, où est la liberté? On n'en a pas. Mais comme il y a de l'incertitude, parce qu'il y a du hasard, il y a de la liberté. La liberté existe dans ceux-là seuls qui sont les marges d'incertitude, si je parle en langage contemporain. C'est les marges d'incertitude, fût-elles les plus minuscules qui soient. Et ça s'applique à tout, y compris, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est la sociologie des organisations. Il y a une sociologie des organisations, une entreprise, une société, déterministe. En gros, c'est la fonction qui crée l'organe. En gros, fondamentalement, les individus, en fonction de la fonction qu'ils occupent, ont des comportements, une logique, une façon de penser qui est déterminée. C'est une machine, c'est une mécanique. Tout est la société, une organisation humaine, c'est une mécanique. Et chacun n'est qu'un pion déterminé par la mécanique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre sociologie des organisations qui est basée sur l'idée que l'homme est acteur. Et qu'il y a des interactions, et l'homme est acteur, et il y a des interactions entre les éléments humains d'une organisation, parce qu'il y a des marges d'incertitude, qui sont des marges de liberté. Et le pouvoir, il faut le comprendre, la théorie du pouvoir, il faut la comprendre à partir de cela. Voilà. Donc vous imaginez que l'épicurisme, dans sa physique, a eu quand même à provoquer une polémique évidente, parce que le fait qu'il y ait du hasard allait complètement à l'encontre de l'idée que les dieux, qu'on était des marionnettes des dieux, que le monde était complètement soumis aux dieux. Bon, j'en reste là. Voilà, et on continuera beaucoup plus sur l'épicurisme, et notamment la question du matérialisme.